que vous avez tous entendu cette expression, la génération X par exemple, la génération Y peut-être, ou la génération de baby boom. Mais est-ce que vous savez comment on appelle de plus en plus souvent la génération qui est née à la fin des années 70, dans les années 80 et au début des années 90? Je parle des jeunes qui sont lycéens ou étudiants aujourd'hui ou qui viennent d'entrer dans la vie professionnelle. Je parle de ma génération, en fait, et de plus en plus de sociologues font référence à cette jeune génération comme étant la génération de Peter Pan. La génération de Peter Pan. Et pourquoi Peter Pan? Parce que si vous vous souvenez de vos contes de fées, Peter Pan n'aime pas les adultes. Il n'aime pas grandir. Il veut rester adolescent pour toujours, dans un monde imaginaire, sans responsabilité. Et aujourd'hui, selon beaucoup de sociologues, de psychologues, d'employeurs et de parents, on a des Peter Pan partout. Partout, il y a des gens qui semblent d'avoir 25 ans ou 30 ans ou même plus, mais qui sont coincés dans l'enfance. On a une génération de jeunes hommes surtout, qui ne savent pas ce que c'est la masculinité, qui ne recherchent pas la maturité et qui pensent que l'adolescence est le but final de la vie. Le pire, c'est que les médias ne nous aident pas à résoudre ce problème qui touche à la masculinité. Et personnellement, j'ai du mal à trouver des films ou des séries de télévision qui montrent les hommes comme étant responsables, mûrs, fidèles et capables. On voit plutôt des hommes alcooliques et dépressifs qui ont été abandonnés par leur épouse. C'est vrai, on voit des pères inutiles qui n'arrivent pas à s'occuper de leurs enfants pendant que leur femme travaille et pourvoit aux besoins de la famille. On voit des hommes qui cherchent à conquérir des femmes autres que la leur. On présuppose que la fidélité n'existe pas chez les hommes. Et s'il est fidèle, c'est parce qu'il est un Homer Simpson. Vous connaissez peut-être les Simpsons. C'est-à-dire trop stupide pour être attirant. Je ne sais pas si les médias reflètent la culture ou si la culture suit les médias. Je pense que c'est un peu les deux. Mais en tout cas, on ne peut pas nier le fait qu'il y a un gros problème. Un gros problème. Selon les sondages, les jeunes hommes en France regardent plus de 3 heures de télévision par jour. 3 heures de télévision par jour. Il y a de plus en plus d'addiction à la pornographie, de moins en moins de bonnes notes à l'école. Le chômage volontaire de ces jeunes hommes augmente. Ils ne se marient de moins en moins, ou de plus en plus tard en fait. Il y a de plus en plus de confusion en ce qui concerne leur identité. Il y a de moins en moins de clarté en ce qui concerne leur rôle et leur devoir dans la société. Il y a quelques mois, un jeune homme a appelé une émission de radio, je l'ai écouté, pour exprimer sa détresse parce qu'il était homosexuel. Mais en même temps, il était tourmenté parce qu'il était attiré sexuellement par des filles. Et c'est peut-être un peu trop, et je ne vous raconte pas cette histoire pour me moquer de la situation de ce jeune homme, mais pour vous montrer qu'il y a vraiment un problème de l'identité dans notre société. Alors, bien sûr, il y a des hommes efféminés et confus, c'est sûr. Mais de l'autre côté, il y a aussi des hommes qui sont caractérisés par le machisme, c'est-à-dire une masculinité exagérée aussi. Ils cherchent tout le temps la bagarre, ou ils se vantent de leurs nombreuses conquêtes sexuelles, par exemple. Dans tous ces cas, on constate une grande confusion en ce qui concerne le rôle et les devoirs des hommes. Alors, je sais bien que les problèmes de masculinité et de maturité sont un souci pour les hommes, quelle que soit leur génération. Et je veux dire tout de suite que je ne suis pas un psychologue, vous savez déjà, et que ce n'est pas d'une perspective scientifique que je vais parler de ces problèmes qui touchent à la masculinité, mais le but de cet exposé est de répondre bibliquement aux problèmes que l'on constate chez les hommes et de souligner quelques principes bibliques qui éclairent leur rôle et leur devoir dans le foyer. Mon but, c'est de voir comment on peut éviter la condition de Peter Pan, la condition de Homer Simpson, grâce à ce que la Bible dit concernant la maturité masculine. Mais avant d'aborder le rôle de l'homme dans le foyer, j'attire votre attention sur quelques points importants qui nous aideront à comprendre quelle est l'essence de l'homme, c'est-à-dire du sexe masculin. La discipline de la philosophie a déjà contribué pas mal de choses sur le sujet. Les hommes sont des animaux rationnels, par exemple. Les hommes sont des créatures morales, d'accord. Selon certains philosophes existentialistes, chaque individu, homme ou femme, se crée lui-même. D'accord, on a lu Sartre. Et certains féministes disent, pas tous, mais certains disent que les hommes sont des bêtes qui ne pensent qu'au sexe. Ok, c'est possible. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce ne sont pas des spéculations des êtres humains, que leur théorie soit juste ou fausse, mais ce qui nous intéresse, c'est la révélation de Dieu et ce qu'elle dit sur le sujet. Alors, comment définit-on le sexe masculin? Est-ce que c'est une question physiologique? Est-ce qu'un homme est défini par la structure de son corps ou par sa force physique? C'est sûr que normalement les hommes sont plus forts que les femmes. Il y a des différences physiques, notamment des différences sexuelles, bien sûr. Mais bien que ce que je raconte soit vrai, la force physique est-elle au cœur de la masculinité? Les hommes paralysés sont toujours des hommes, n'est-ce pas? Même si leur force physique est limitée ou épuisée, les hommes âgés sont toujours des hommes, même si leur force physique diminue. Je dirais que la physiologie est importante, et surtout la distinction sexuelle, mais derrière tout ça, il y a quelque chose d'encore plus important auquel on va venir dans un petit instant. Mais encore, je pose cette question, comment définit-on le sexe masculin? Est-ce que c'est lié à notre capacité de travailler? Je pense encore que ce n'est pas le cas. Un homme incarcéré est toujours un homme, n'est-ce pas? Même s'il ne peut pas s'occuper de sa famille. Un homme qui est blessé et incapable de travailler est toujours un homme, n'est-ce pas? Alors je pose de nouveau la question, comment définit-on le sexe masculin? Est-ce que c'est un rapport avec le fait qu'on soit attiré par les femmes? Encore, je dirais que non. On ne peut pas dire qu'un homme sexuellement attiré par des hommes cesse par conséquent d'être un homme. On ne peut pas dire qu'un homme qui n'a aucune relation sexuelle avec une femme cesse soudainement d'exister. C'est pas logique. C'est sûr que la force physique de l'homme, ses relations, sa capacité intellectuelle, son travail, toutes ces choses sont très importantes. Et qui sont en partie des signes de masculinité. Mais ces choses sont secondaires par rapport à l'essence de la masculinité, l'essence de la masculinité qui est donnée à l'homme par Dieu. Ce que je veux dire, c'est que ces qualités représentent quelque chose de plus fondamental. Le fait que l'homme ait été créé par Dieu, qui lui a donné un sexe et qui lui a donné le devoir d'agir d'une manière conforme à l'ordre de la création que Dieu a établi. Ça veut dire que bien que l'homme et la femme portent tous les deux l'image de Dieu, ils n'ont pas la même identité. Selon Genèse chapitre 1 et 2, l'homme a été créé pour assumer une certaine autorité et une certaine responsabilité dans la création. Même s'il est faible physiquement, son identité physique est quand même basée sur la création de Dieu. Même s'il n'a aucune relation sexuelle avec une femme, son identité sexuelle est quand même basée sur la création. Même s'il n'a pas de travail, son rôle ordinaire en tant que celui qui pourvoit est quand même basé sur la création. La masculinité se trouve donc dans l'être de chaque homme, en fonction de l'identité que Dieu a donnée à l'homme, à la création. De ce sens de la masculinité découle le rôle et les devoirs de l'homme, tels que Dieu les a institués. La masculinité se trouve donc dans l'être de chaque homme. Ça, c'est très important de comprendre. Mais comment cette masculinité s'exprime-t-elle dans la relation d'un homme avec sa femme, avec ses enfants et avec les autres en général? Si vous voulez savoir à quoi ressemble un mauvais exemple de masculinité dans le mariage, vous pouvez demander à ma femme de vous raconter toutes mes bêtises. Je ne suis pas du tout parfait et je ne prétends pas être arrivé à pratiquer parfaitement tous les principes qui vont suivre. Mais en tout cas, je vous présente quelques instructions qui me semblent être bibliques et qui concernent les hommes dans leur relation avec leurs femmes. Et ensuite, quelques instructions qui concernent les hommes dans leur relation avec leurs enfants. Et enfin, tout à l'heure, quelques instructions générales qui s'appliquent à tous les hommes. Alors, si vous êtes un homme, votre identité est notamment liée au leadership et à la responsabilité. Et j'insiste sur cette idée d'identité parce que même un homme qui habitait dans une grotte dans le désert, sans aucune responsabilité sociale et sans aucune occasion de pratiquer le leadership, même cet homme a une identité d'homme qui lui est inséparable. N'oubliez pas Genèse 1 et 2 que j'ai mentionné tout à l'heure. Ensuite, Éphésiens chapitre 5, verset 23, nous dit que l'homme est la tête de sa femme. Le mot « tête » signifie dans ce texte le leadership. Ça nous renvoie à la responsabilité. Remarquez que dans Genèse chapitre 3, verset 9, après qu'Adam et Ève aient péché contre le Seigneur, Dieu a appelé l'homme et lui a dit « Où es-tu ? Où es-tu ?» C'est la femme dans ce texte qui a péché en premier, mais c'est l'homme qui est tenu pour responsable. C'est important. Ça ne veut pas dire que la femme n'avait aucune responsabilité, même la femme a été punie pour son péché, mais ça veut dire que l'homme porte une responsabilité unique et première. Ce que je viens de dire, je sais, s'oppose complètement à ce qu'enseigne notre société. Il y a ceux qui nous invitent à mépriser le leadership masculin qui aurait pour but l'asservissement des femmes. Ça, c'est l'idée. Mais le leadership masculin biblique n'a rien à voir avec ces stéréotypes. Le leadership masculin biblique n'a rien à voir avec le leadership d'un dictateur qui impose sa loi et qui donne des ordres dans tous les sens, à tout le monde et n'importe comment. Le leadership masculin biblique a pour image celle d'un serviteur. C'est le serviteur qui a pour responsabilité de conduire et de protéger les enfants du maître sur une route dangereuse, dans un sens. Je voudrais donc, dans cette partie, mentionner 5 choses brièvement concernant le leadership de l'homme dans sa relation avec son épouse. Le leadership se manifeste dans le désir de servir sa femme. Ça, c'est la première chose. Luc 22, verset 26 dit que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert. La Bible appelle tous les chrétiens au service, et cela s'applique aux hommes dans le foyer. Concrètement, ça pourrait vouloir dire aider avec les tâches domestiques. Ça pourrait vouloir dire garder les enfants pour que sa femme puisse passer un moment tranquille. Ça pourrait vouloir dire toutes sortes de choses. Mais l'idée, c'est que le leader n'est pas plus grand que sa femme. Il n'est pas plus grand que sa femme. Notez bien que la relation dans le mariage n'est pas décrite comme la relation entre un père et sa fille, ni comme celle d'entre un maître et son serviteur. De plus, le mari ne doit pas usurper l'autorité de Christ, mais il doit pointer sa femme vers Christ. Ça, c'est quelque chose d'important aussi. Éphésiens chapitre 5, versets 22 à 33, nous dit que Christ est la tête de l'Église. Donc, l'homme ne doit pas oublier que Christ n'est pas lui, et le maître de sa femme. Il n'est pas supérieur à sa femme, mais co-héritier de Christ, selon Romains 8, 17. Le leadership, donc, de l'homme vis-à-vis de sa femme doit pointer vers l'autorité de Christ et l'autorité de Christ sur les deux, c'est-à-dire le couple et sur le foyer. Le messager, en fait, ne vient pas de sa propre autorité, mais avec l'autorité de celui qui l'envoyait. Ensuite, dans son leadership, le mari valorise sa femme. Ça veut dire qu'elle a la priorité sur toutes les autres femmes et sur tous les autres gens en général. Donc si on veut affaiblir son mariage, il suffit d'éviter de passer du temps avec sa femme, de développer des relations proches avec d'autres personnes de sexe opposé et de négliger ce beau trésor que Dieu nous a donné. Imaginez un coach qui aurait été engagé pour entraîner une très bonne équipe de foot. Il a la possibilité de faire un très bon travail et de gagner la Coupe du Monde avec son équipe. Mais au lieu d'entraîner ses joueurs professionnels, il passe tout son temps à entraîner une équipe de benjamins dans un petit village de la campagne. De même, un mari qui néglige sa femme, qui ne la valorise pas, est en train de rater cette opportunité qu'il a de développer une équipe familiale qui réussit. Dans sa relation avec sa femme, le mari est un bon leader quand il assure aussi la liberté de sa femme. Ça, c'est la quatrième chose, je pense. Il crée un environnement où sa femme se sent libre de lancer certaines activités ou de prendre certaines décisions quand cela est nécessaire, et d'élever ses enfants selon les principes décidés par le couple. N'oubliez pas qu'il n'est pas un dictateur. Le mari n'est pas un dictateur selon la Bible. En tant que chef du foyer et serviteur de Christ dans son foyer, l'homme est appelé à donner le temps en termes d'instruction spirituelle dans la famille. Dieu a confié le leadership à l'homme, et s'il néglige cette charge, il révèle et aggrave son indifférence et son détachement vis-à-vis de sa femme et du reste de sa famille. Ça veut dire aussi que si ça incombe forcément à la femme d'initier les moments de prière, d'organiser l'étude de la Bible et de motiver sa famille à aller au culte, il y a quelque chose qui cloche dans la relation. Chaque mari devrait rendre compte de la façon dont il dirige sa maison. Enfin, je voudrais mentionner le fait que chaque chrétien, ce qui inclut les maris, est appelé à l'humilité. Philippiens chapitre 2, verset 3. Dans ce texte nous dit de ne rien faire par rivalité ou par vaine gloire, mais dans l'humilité d'estimer les autres comme supérieurs à nous-mêmes. Pour nous qui sommes mariés, nous devons tenir notre femme en très haute estime. Et si la phrase « Pardonne-moi mes bêtises et mes péchés contre toi » ne fait pas partie de notre vocabulaire, ça doit changer aussi. Vis-à-vis de sa femme, l'homme est donc leader, mais il est aussi protecteur. Ça, c'est la deuxième chose que je veux mentionner. J'ai ajouté quelque chose qui n'était pas dans mes notes et maintenant, c'est pas grave. Je vais retrouver maintenant. Ah oui, c'est mon deuxième point par rapport au rôle et au devoir de l'homme dans le mariage. Il y a un bon exemple de ce genre de protection dans la relation de Joseph et Marie. Ça, c'est un très bon exemple dans l'Écriture, en fait. En Matthieu chapitre 1, verset 18. À 25, Joseph était fiancé avec Marie quand elle est tombée enceinte par l'œuvre de Dieu. Okay, vous connaissez l'histoire. Les fiançailles représentaient à cette époque-là un engagement très fort, pratiquement aussi fort que le mariage aujourd'hui. Et parce qu'on lit dans le texte que Joseph, pour rompre l'engagement, aurait été obligé de divorcer, c'est-à-dire d'annuler cet engagement devant des bonnes autorités. Il était permis à Joseph de divorcer dans ce cas parce que la grossesse de sa fiancée était le signe d'un adultère. Okay? mais même en présupposant que Marie avait péché contre lui et contre Dieu, on voit dans le texte que Joseph a voulu protéger cette jeune femme. Il n'avait pas envie de diffamer Marie. Il a fait preuve d'un énorme respect en voulant protéger la réputation de sa femme. Mais il y a un autre exemple aussi. On peut regarder en Genèse chapitre 2, c'est le mauvais exemple qui couronne dans un sens tous les autres mauvais exemples dans l'Écriture. Dieu a créé Adam, ok? Et il lui a donné des instructions pour savoir comment vivre dans le jardin. C'était à Adam de transmettre ces informations à sa femme. C'était à Adam d'aimer sa femme et de pointer constamment vers l'autorité de Dieu sur leur couple. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Dans Genèse chapitre 3, verset 6, il n'a rien dit pendant que Satan séduisait sa femme et l'incitait à pécher contre Dieu. Il a même donné son accord. Puis au verset 12, il ose rejeter la responsabilité sur sa femme. Au lieu de protéger Ève et de l'aimer, Adam l'a complètement abandonnée. Quel exemple pour nous aujourd'hui. Quel héritage. Éphésiens chapitre 5, verset 25, nous dit que les maris chrétiens doivent aimer leur femme d'un amour plus fort que la vie. Concrètement, cela veut dire notamment la protéger. Ils doivent leur fournir une protection contre la tentation, contre les attaques à l'encontre de son caractère, de son corps. Ça veut dire aussi prier pour sa femme et étudier la Bible avec sa femme pour qu'elle soit équipée pour vivre d'une manière qui honore Dieu. Ça veut dire aller voir ce qui sait que ce bruit étrange au milieu de la nuit, au lieu de dire « Vas-y chérie, on est un couple égalitaire et c'est ton tour. » Dieu, c'est vrai, il y a des couples comme ça. Dieu a donné aux hommes une physionomie qui n'est pas toujours, mais souvent, plus apte à protéger physiquement. Dieu a confié aux hommes la responsabilité de défendre leurs femmes contre la calomnie et les abus venant d'autrui. Et Dieu appelle aussi les hommes à soutenir leurs femmes émotionnellement et spirituellement. Protéger votre femme est le signe de votre amour pour elle. Le fait d'accepter de recevoir cette protection de votre part est le signe de son respect pour vous. La troisième chose que je voudrais mentionner concernant la masculinité dans le mariage, c'est la responsabilité qu'a l'homme de pourvoir aux besoins de sa femme et de ses enfants. Je sais bien quels sont des préjugés qui existent par rapport à cette idée de l'homme qui pourvoit. Et bien sûr, que l'on peut soulever toutes sortes de questions par rapport au rôle de femme dans ce domaine aussi. Mais le but de cet exposé n'est pas de discuter le rôle des femmes, ça c'est pour le mois prochain. Mais de souligner aujourd'hui quelles sont les responsabilités particulières des hommes. L'homme est appelé à travailler pour son propre bien, pour obéir à Dieu et pour glorifier son Créateur. Si on regarde encore le récit de la création, on voit que l'homme avait la responsabilité de cultiver le jardin et de le garder. Genèse chapitre 2, verset 15. L'homme a été créé pour créer. L'homme a été fait pour faire, dans un sens. Et je pense aussi qu'il y a un rapport très étroit entre la vocation de l'homme dans Genèse 2 et la malédiction de l'homme en Genèse chapitre 3. En se rebellant contre Dieu, l'homme a attiré la malédiction sur toute la création. Et ce qui est intéressant, c'est que la malédiction a touché l'homme et la femme de façon différente dans ce texte. La malédiction d'Ève, de la femme, concerne son domaine particulier. De la même façon, la malédiction d'Adam concerne son domaine particulier. Si on regarde les versets 17 à 19 de Genèse chapitre 3, ce texte nous explique que la malédiction d'Adam a touché la terre qu'il cultivait. Ça a touché son travail, en fait. L'homme et la femme ont été touchés chacun dans son propre domaine. ça ne veut pas dire que l'homme n'a pas des responsabilités domestiques. C'est pas ce que je suis en train de dire. Ça ne veut pas dire que Dieu interdit à la femme de travailler en dehors de la maison. Mais ça nous révèle, en tout cas, quelles sont les attentes de Dieu concernant les vocations ordinaires de l'homme et de la femme. Alors, on a beaucoup parlé du rôle de l'homme dans le foyer par rapport à sa femme, mais on ne doit pas oublier le rôle de l'homme dans le foyer par rapport à ses enfants aussi. Une des meilleures choses qu'un garçon puisse recevoir est l'influence masculine de son père, qui lui apprend comment honorer Dieu dans son rôle en tant qu'homme. Et une des meilleures choses qu'une fille puisse recevoir est l'influence d'un père qui lui montre le genre de masculinité qu'elle devrait rechercher chez son futur époux. Ça ne m'étonne pas de voir les statistiques qui disent que les enfants privés d'un père sont plus enclins à souffrir des problèmes émotionnels, des problèmes scolaires et des problèmes d'identité. On peut chercher sur l'Internet et trouver facilement des statistiques sur ces problèmes. Mais les soi-disant experts de la famille du 21e siècle nous invitent à renoncer à ces idées traditionnelles de la masculinité qui risquent d'endommager nos pauvres enfants, n'est-ce pas? Je connais une école maternelle en Suède où ils enseignent aux enfants que les sexes masculins et féminins n'existent pas. Ils ont inventé un vocabulaire, en fait, qui évite les pronoms masculins et féminins à cette école. Au lieu de garçon et fille, ils emploient le mot « ami » pour tout le monde. Je plaisante pas, c'est une vraie école. C'est à chaque enfant, en fait, de décider leur sexe un jour. C'est progressiste, je suis d'accord. En fait, ils ont progressé au-delà de la raison. Ils ont nié la nature et la beauté créationnelle de chaque sexe. Selon l'Écriture, les pères sont appelés à instruire leurs enfants dans la vérité. Ils sont appelés à leur montrer ce que c'est la vraie masculinité, en protégeant, en instruisant et en corrigeant leurs enfants. Et donc, je vais aborder brièvement chacun de ces principes. Tout d'abord, l'idée que les hommes soient appelés à protéger leurs femmes s'applique aussi aux enfants. Dans Luc chapitre 11, Jésus attire notre attention sur le fait que nous, même en tant que pécheurs, nous prenons soin naturellement de nos enfants. L'idée principale de ce passage, c'est que si nous prenons soin de nos enfants, à combien plus forte raison Dieu prend-il soin de nous? Ça, c'est l'idée. Ce texte a pour but de nous montrer combien le Père Céleste assume vraiment le rôle d'un Père pour nous. Dans notre Père aussi, Jésus nous rappelle combien le Père Céleste pourvoit à nos besoins selon sa volonté. L'Ancien Testament est rempli d'exemples où l'on voit ce Père Céleste qui a le rôle de pourvoir aux besoins de son peuple et de le protéger. Dieu dit à son peuple dans Jérémie chapitre 31, qu'il mènera son peuple vers des torrents d'eau par un chemin uni où ils ne peuvent trébucher parce qu'il était un père pour Israël. Donc on a ce vocabulaire beaucoup dans la Bible, l'idée de Père Céleste. Donc nous avons un très bon exemple dans notre Père qui nous protège. Et en tant que Père, une de vos responsabilités aussi concerne l'instruction de vos enfants. Dans le livre de Deutéronome, Moïse exhorte les Israélites à enseigner la loi de l'Éternel à leurs enfants pour qu'ils puissent transmettre ses prescriptions à la prochaine génération. Les hommes ont l'obligation d'investir dans l'éducation de leurs enfants. Les hommes ont appelé à enseigner à leurs enfants tout ce qui est nécessaire pour plaire à Dieu. Ils ont appelé à leur annoncer l'Évangile. L'éducation de vos enfants en ce qui concerne les questions fondamentales n'est pas la responsabilité de l'école publique. Je vous avertis que si vous n'enseignez pas à vos enfants la vérité de la parole de Dieu, quelqu'un d'autre va leur enseigner quelque chose d'autre qui contredit la parole de Dieu. J'ai parlé avec un jeune père chrétien cet été quand j'étais aux États-Unis, qui m'a dit qu'il comptait élever son fils de façon à ce qu'il décide par lui-même quelle religion il suivait. Il m'a dit, ce n'est pas à nous d'influencer nos enfants dans le choix de leur croyance. Ah bon? Vraiment? Mais si on n'enseigne pas à nos enfants les principes chrétiens, ils vont apprendre d'autres principes, des principes d'athées, pluralistes, séculiers et d'autres choses encore à la part de leurs copains, de leurs professeurs ou de la télévision, en fait. La vraie masculinité se manifeste donc dans le désir d'un père d'instruire ses enfants dans toute la vérité. Mais un père corrige aussi ses enfants. C'est la troisième chose que je veux mentionner concernant les pères et leur relation aux enfants. Il corrige aussi ses enfants d'après le modèle qui nous est révélé en l'Écriture. Nous voyons que notre Père Céleste nous corrige pour que nous aussi nous puissions corriger nos enfants et les conduire à ce qui est juste. Hébreux chapitre 12 nous dit que Dieu frappe de verges ses vrais enfants, ceux que Dieu aime. Le fait qu'il nous discipline nous montre que nous sommes ses vrais enfants. Il nous corrige dans notre intérêt, pour nous protéger et pour nous instruire dans la justice. Le leadership masculin dans le foyer assure donc une certaine discipline dans le foyer à l'aide d'un gros bâton, bien sûr. Je plaisante, mais... Je plaisante un peu. Je ne vais pas en dire beaucoup plus sur le sujet, parce qu'on va aborder bien sûr ce sujet de discipline et l'éducation des enfants en quelques mois aussi. Bon, bref, alors, puis... Ensuite, je veux mentionner le fait que la masculinité biblique ne s'applique pas seulement aux hommes mariés avec des enfants. Les jeunes hommes aussi ont certaines responsabilités dans le foyer. Et voici donc l'exemple d'un bon comportement masculin pour des jeunes hommes selon la Bible. Okay? Écoutez bien. Il a 30 ans, habitait chez ses parents et se lève chaque jour à 13 heures. Ensuite, il demande à sa maman de lui préparer quelque chose à manger. Ensuite, il joue à des jeux de vidéo, c'est son exercice pour la journée. Ensuite, il sort pour traîner avec ses copains. Le soir, il va à une fête quelque part. Il boit un peu, il passe du temps avec quelques filles. Puis, il rentre à 3 heures du matin pour perdre du temps sur l'Internet avant d'aller se coucher. J'ai pas lu le bon truc. En fait, on peut trouver des bons exemples en l'Écriture. Si on regarde, par exemple, 1 Pierre, chapitre 5, qui dit « Jeunes hommes, humiliez-vous sous la puissante main de Dieu. Soyez sobres et vigilants et restez fermes dans la foi afin de résister à la tentation. » Le psalmiste demande « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier ? » Et la réponse, en observant la parole de Dieu, en développant des bonnes habitudes et une bonne discipline dans sa vie afin qu'il soit préparé à servir sa future femme, à offrir de son temps au service de l'Église et à vivre dans la justice. Enfin, il y a quelque chose qui s'applique à tous les hommes, à toutes les générations, que ce soit la génération X, la génération Y, des Peter Pan, des baby boomers, c'est que la masculinité qui honore Dieu est fondée sur une relation avec Dieu par Jésus-Christ. Le rôle de l'homme dans son foyer doit être fondé sur l'humilité et sur la repentance. Vous avez déjà fait des fautes et des bêtises. Vous allez encore faire des fautes et des bêtises, c'est sûr. L'Écriture ne garantit pas que si vous suivez tous ces principes bibliques, vous allez éviter tous les problèmes domestiques. Dieu lui-même, il a des enfants rebelles. C'est une réalité dans l'Écriture. Mais n'oubliez pas que votre masculinité vous vient de votre Créateur. La chose la plus courageuse et la plus masculine qu'on puisse faire dans le foyer, c'est de s'humilier devant Dieu et de mettre la croix de Jésus-Christ au centre de ce qu'on fait. Si vous êtes un homme, vous n'avez pas besoin de moi, bien sûr, pour comprendre ce que ça veut dire d'être masculin. Je viens de vous donner une liste de choses à faire, dans un sens, en sachant très bien que les listes sont souvent oubliées, même par ceux qui les donnent. Mais je veux conclure en disant que Dieu nous a créés pour assumer l'identité que Dieu nous a transmise, qui reflète notre Créateur. La meilleure chose qu'on puisse faire est de vivre en tant qu'homme qui célèbre et qui cultive au fond de leur être ce sens de la masculinité que Dieu nous a donné. La meilleure chose que notre société puisse faire pour les hommes, c'est de permettre aux hommes d'occuper le leadership, d'être en position de protéger et de pourvoir aux besoins de leur famille. C'est pour cela qu'ils ont été créés. Alors, j'arrête là.